en séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Le lundi 19 mars 2007, le professeur Jean-Noël Talbot, chef de service de médecine nucléaire à l'hôpital de Thenon et professeur de médecine, faisait devant l'Académie des sciences morales et politiques une communication consacrée à la question « Où en est l'imagerie médicale en cancérologie ?». L'Académie des sciences morales et politiques, sous la présidence de Lucien Israël, a choisi comme thème annuel de réflexion pour l'année 2007 « Santé, médecine et société ». Rejoignons en séance Jean-Noël Talbot.
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Chancelier, Messieurs, Mesdames les académiciens, Mesdames et Messieurs, je tiens tout d'abord à vous remercier de m'avoir, ainsi que le professeur Israël, donc, de m'avoir invité dans cette enceinte afin de parler de ma spécialité qui effectivement est récente. Et puis je tiens à vous faire savoir à quel point je me sentais honoré de cette invitation. Donc brièvement, comme vous l'avez dit, j'enseigne cette discipline ainsi que la biophysique à l'université Pierre et Marie Curie. Et je suis aussi au niveau européen le chairman du groupe de spécialistes sur les agents de diagnostic de l'Agence européenne du médicament. Chairman étant un mot que je n'aime pas puisque c'est du franglais, difficile à traduire. J'ai tenté de le traduire par chaisier, mais en général ça a provoqué l'hilarité. Donc ici c'est l'hôpital Thenon, avant qu'il ne découvrit l'imagerie moléculaire moderne. Et puis voici maintenant l'hôpital Thenon. Alors donc, les modalités d'imagerie. Alors l'imagerie in vivo, ça veut dire par là que, bien entendu, je ne parlerai pas aujourd'hui de l'histologie et des techniques in vitro qui ont fait des progrès considérables elles aussi et dont je pense que des conférences traiteront. Donc les quatre modalités d'imagerie in vivo sont pour la plupart bien connues du public, la radiologie, en particulier. La plus connue maintenant, c'est le scanner, dont le nom officiel est TDM, tomodensitométrie, qui, comme vous le savez, se fait à l'aide de rayons X, qui irradie donc le patient, et pour lequel il faut des produits de contraste iodés qui vous donnent des renseignements sur l'anatomie des organes et sur les modifications anatomiques que peuvent entraîner les maladies, en particulier le cancer. Moins connue est la médecine nucléaire, mais qui a quand même un certain nombre de décennies d'ancienneté, qui utilisent des rayons gamma, qui sont eux aussi irradiants. Et là, la différence, c'est que l'image se fait à partir du patient lui-même, parce que le produit radioactif qu'on lui a administré va se localiser dans tel ou tel organe en fonction de la fonction du dit organe. Donc c'est une approche très différente de l'approche anatomique du scanner. Et c'est-à-dire que plus une fonction est perturbée, plus le message est perturbé lui aussi, soit en plus, soit en moins. Donc ces deux techniques sont irradiantes. Il est clair que dans légèrement irradiante, hein, très légèrement irradiante, ça représente quelques dixièmes de ce que ferait une radio, quelques millièmes même de ce que ferait une radiothérapie. Donc dans le domaine du cancer, cette nature irradiante ne joue pas un grand rôle, sauf si on est dans le cadre du dépistage. Alors il y a deux techniques qui, elles, ne sont pas irradiantes. Les ultrasons, qui connaissent un grand développement depuis environ 20 ans, et qui viennent du fait qu'ils peuvent être utilisés pratiquement dans n'importe quel cabinet, puisqu'il n'y a aucune irradiation du patient, mais qui ne donnent qu'une fonction anatomique et qui, en plus, dépendent pour beaucoup, même à l'heure actuelle, de la qualité de la personne qui réalise l'examen et de sa qualité d'interprétation. Et enfin, pour terminer, l'IRM, qui travaille avec, pour simplifier, au sein d'un champ magnétique, ce qui pose des problèmes d'ailleurs chez les porteurs de pacemakers, comme vous le savez, pour lequel il n'y a pas d'irradiation, mais pour lequel on a un produit de contraste qui permet de renforcer ou d'atténuer les images de tel ou tel organe en fonction de la fonction de l'organe en question. Donc, on a une double approche pour l'IRM qui est anatomique et fonctionnelle. Cela dit, j'ai mis fonctionnel en italique parce que cette approche fonctionnelle est beaucoup moins marquée que pour la médecine nucléaire. En effet, au niveau de la médecine nucléaire, on arrive à diagnostiquer des modifications au niveau de ce qu'on appelle la picomole, c'est-à-dire 10-12 moles par litre, alors qu'il y a un rapport 1 million avec l'IRM, il faut 1 million de fois plus de molécules pour avoir un signal significatif ou significativement modifié en IRM. Donc l'approche fonctionnelle de l'IRM n'est que débutante. Voilà, ça c'est le décor, j'espère que je n'ai pas été trop long. Alors, quand est-ce qu'on fait de l'imagerie en cancérologie? Alors là, je ne voudrais pas me substituer, bien entendu, à votre conférence. Donc je suis très schématique et même trop schématique probablement, on fait de l'imagerie, soit lors du dépistage systématique. Et alors dans ce cas-là, évidemment, il faut une technique qui soit très spécifique, c'est-à-dire qu'on ne soupçonne pas à tort des gens qui ne sont pas atteints. Sinon, comme en général dans le dépistage, les gens sont sains, si on dépiste à tort des gens, on entraîne des frais considérables et on inquiète inutilement. Donc le dépistage systématique, c'est quelque chose de très spécial. À l'heure actuelle, il n'y a pas grand-chose qui existe en imagerie, donc je vais aller très vite. On peut considérer maintenant que certains proposent, comme vous le savez, de faire des scanners systématiquement aux anciens fumeurs ou aux gens qui ont été exposés à l'amiante, par exemple. On est dans le cadre du dépistage. Et on pourra peut-être faire aussi des colonoscopies virtuelles dans le cadre du dépistage du cancer du côlon. Plus fréquemment, c'est la localisation du cancer primitif, encore de fortes présomptions de certitude de cancer. Ça va s'augmenter comme fréquence. La certitude de cancer, c'est lorsqu'on, par exemple, on biopsie un ganglion et que ce ganglion est métastatique. On sait qu'il y a un cancer, mais on ne sait pas où il est. Et c'est tout un défi de trouver le cancer primitif. Et là, on va voir que l'imagerie moderne apporte beaucoup. Quant à la présomption, ça peut être le fait qu'on diagnostique dans le sang des marqueurs qui prouvent qu'il y a un cancer quelque part. Et là aussi, on n'est pas dans le cadre de cette conférence, mais c'est un développement qui vient et qui s'enchaîne avec l'imagerie. Ensuite, l'évaluation de l'extension de ce cancer, extension locale ou métastatique, avec comme corollaire, évidemment, la décision thérapeutique et aussi le pronostic. Puis, l'évaluation de l'efficacité du traitement, et c'est là où l'imagerie fonctionnelle joue un très grand rôle, parce que, en général, quand un traitement est efficace, il restaure la fonction, ou en tout cas, il perturbe la fonction qui avait été détournée par le cancer, alors que l'imagerie anatomique met beaucoup, beaucoup plus longtemps à permettre d'affirmer qu'il y a une réponse au traitement. Et enfin, la recherche de récidive, qui, là encore, peut être systématique ou motivée. Vous voyez que ça ferait une longue, longue, longue conférence si je prenais chacun de ces points en détail. Je vais plutôt essayer de dégager des évolutions. Alors, pourquoi faire, déjà? Pourquoi faire? Eh bien, un point important, c'est qu'un examen d'imagerie, ce n'est plus faire une image en se disant qu'on aura une belle image de plus à mettre dans le dossier du patient. Il est clair maintenant qu'on attend d'un examen d'imagerie qui va coûter de plus en plus cher, qu'il ait un impact sur la prise en charge du patient. C'est-à-dire que son résultat doit entraîner, dans une proportion raisonnable de cas, évidemment pas 100%, une modification du stade de la maladie, c'est-à-dire que jusque-là on pensait que le patient n'était pas métastatique, on découvre malheureusement qu'il l'est, ou bien au contraire, on pensait que l'anomalie qu'on avait repérée était une métastase, ça n'en est pas une. Et puis aussi, une modification de la thérapeutique prévue. On ne fait de l'imagerie diagnostique que lorsqu'on a des options thérapeutiques différentes possibles. Sinon, c'est pure perte. En tout cas, ce n'est pas efficace. Et on se situe là dans un environnement évolutif. C'est-à-dire que toutes ces modalités d'imagerie ont bénéficié de progrès technologiques récents et rapides, favorisant en particulier leur utilisation en cancérologie. Les possibilités thérapeutiques évoluent elles aussi dans les trois domaines, la chirurgie, la radiothérapie et le traitement médical. Vous aurez une conférence sur ce sujet avec, au sein du traitement médical, la chimiothérapie, l'hormonothérapie et toutes sortes de nouvelles thérapeutiques qui visent à redifférencier les cellules cancéreuses ou les priver de leur apport sanguin plutôt que de détruire à tout va les cellules qui se multiplient, puisque ce faisant, on détruit aussi les cellules saines. Quelles sont les améliorations récentes? Je vais les passer très rapidement en revue. Pour la radiographie conventionnelle, la bonne vieille radio de thorax ou la radio de squelette, il n'y a pas eu de changement majeur, sauf qu'on ne rate plus les radios parce que maintenant on a des capteurs. Et puis, que la radiographie, ça c'est nouveau, permet l'intervention, c'est-à-dire que pour délivrer certains traitements, on peut envoyer des sondes, et c'est grâce à la radio qu'on suit leur progression, et ensuite traiter in situ, c'est l'embolisation, c'est l'irradiation locale, c'est donc une application directe, thérapeutique de l'imagerie. Je ne la traiterai pas tellement puisqu'elle fait surtout partie de la thérapeutique. Alors voilà donc des appareils que vous connaissez bien, hein, la radiographie conventionnelle et puis le scanner dont je vais parler. Le scanner a récemment eu une augmentation du nombre de ses détecteurs. C'est-à-dire qu'avant, on faisait un scanner, comme vous savez, du poumon, un scanner de l'abdomen, un scanner du pelvis. Ça va être rapidement fini maintenant. Les scanners ont un champ qui s'est considérablement accru. Et au moins en cancérologie, on va faire régulièrement des scanners du corps entier. Évidemment, c'est très important, puisque dans une pathologie cancéreuse, les métastases peuvent se produire fort à distance de la tumeur primitive. En plus, le scanner permet ce qu'on appelle l'endoscopie virtuelle. C'est-à-dire que l'endoscopie, il s'agit d'introduire un endoscope, en général dans les voies naturelles, c'est quand même relativement invasif. Et puis, si le patient est mal préparé, on peut rater des anomalies sur les muqueuses. Et puis, on n'est pas guidé a priori vers les endroits les plus intéressants. L'endoscopie virtuelle, ça vise à faire un scanner, et probablement d'ailleurs un scanner associé à une TEP, je vais y revenir, de façon à ce que lorsque l'endoscopie réelle sera faite, eh bien, on saura déjà où s'adresser, on gagnera beaucoup de temps, on sera beaucoup moins invasif, et on pourra réaliser les biopsies ou mieux. Voilà le scanner. Donc ici, j'explique rapidement que là où il y avait un détecteur autrefois, maintenant il y en a 64 détecteurs, et qu'évidemment, on va très vite pour réaliser maintenant ce type d'image. Ça, c'est le scanner dont on peut avoir un peu l'habitude en cas de cancer bronchique à gauche. Mais voilà, à droite, une reconstruction de votre rachis, comme si vous y étiez, réalisée sur une fenêtre osseuse d'un scanner. Et de plus en plus, on va réaliser des reconstructions en 3D, en colorant de façon un peu arbitraire, mais les vaisseaux, les ganglions, le squelette. L'échographie. L'échographie est un examen facilement disponible et de répétition aisée. Et là encore, on a amélioré beaucoup de choses, ce qui fait que on va pouvoir localiser et caractériser bien mieux les lésions, en particulier le foie. On a maintenant des produits de contraste en échographie qui sont quelque part des bulles d'air et ça permet de mieux caractériser les lésions, de savoir avec plus d'exactitude si elles ont une chance d'être bénignes ou si elles ont une chance d'être malignes. Et pour terminer, alors voilà donc un exemple avec des nouvelles sondes d'échographie. Les appareils d'échographie sont devenus de plus en plus compliqués et d'ailleurs de plus en plus chers. On s'approche pas loin du million d'euros pour les meilleurs d'entre eux. Alors voilà, ça, tout le monde connaît ces images. Je n'ai pas pris des images de cancérologie. J'ai pris par exemple l'image d'un fœtus qu'on arrive à reconstituer alors qu'il est encore in utero grâce à l'échographie tridimensionnelle. Bien entendu, ça peut s'appliquer aussi en cancérologie. Alors l'IRM. L'IRM, elle aussi évolue. En particulier, comme le scanner, elle évolue vers la réalisation d'images du corps entier et puis aussi vers une approche fonctionnelle, c'est-à-dire de permettre d'avoir non seulement l'image de l'anatomie de l'organe, mais aussi d'une partie de sa fonction et en particulier de son débit sanguin. Et ça, ça peut être utile dans les tumeurs, puisque comme vous le savez, elles sont généralement hypervascularisées avec une vascularisation anarchique qu'il convient d'essayer de réduire. Et beaucoup de traitements maintenant visent avant tout à réduire l'apport sanguin au cancer. Donc, voilà des exemples. Donc ça, c'est la machine d'IRM de gauche que tout le monde connaît, le tunnel dans lequel on sangle le patient pour pas qu'il bouge. Et maintenant, on a des modèles beaucoup plus ouverts, comme ces modèles de droite, qui sont des nouvelles IRM qui vont permettre de réaliser des examens du corps entier. Voilà des exemples d'examens d'IRM. À droite, typiquement, la détection de métastases hépatiques. On le voit en plein... je pense que j'ai une flèche. Oui, j'ai une flèche. On connaît ici une métastase hépatique. Est-ce qu'on est certain que c'est une métastase? Ce n'est pas toujours si simple. Certaines tumeurs vasculaires, comme par exemple ici, peuvent donner des images assez comparables en IRM. Donc, on peut avoir des problèmes de caractérisation parce que l'approche n'est pas vraiment fonctionnelle. Elle est essentiellement anatomique, encore pour le moment. Et puis pour le système nerveux, pour la recherche de métastases cérébrales, l'IRM est assez irremplaçable. Alors, l'IRM fonctionnel consiste avant tout à avoir une idée du débit sanguin en se servant du globule rouge qui contient du fer, comme d'un marqueur. Et évidemment, plus le débit des globules rouges est important, plus le débit sanguin est important. Et ce faisant, on peut caractériser soit des aires cognitives du cerveau, comme c'est représenté ici, mais également des tumeurs qui sont, comme je l'ai déjà dit, généralement hypervascularisées. La TEP. Alors la TEP, c'est la tomographie par émission de positons. C'est la dernière année de cette technique et c'est celle que je pratique à Tenon depuis maintenant une décennie. Alors évidemment, c'est celle dont je vais le plus parler parce que c'est celle que je connais le mieux. Et puis peut-être c'est celle que vous connaissez le moins bien parce qu'elle est moins répandue dans le public. Mais ce dont je vais parler, ce sont des améliorations conceptuelles pour beaucoup d'entre elles qui en fait s'appliquent à toutes les méthodes que je viens d'énumérer. Évidemment, je n'aurai pas le temps de croiser les deux, c'est-à-dire de montrer comment chacune de ces améliorations s'applique à chacune des méthodes. Voilà. Alors, la TEP, à l'heure actuelle, se conçoit fusionnée avec la TDM. La TDM, c'est le scanner, c'est l'anatomie fine, avec une résolution de quelques millimètres et des milliers de coupes. Quand on voit des milliers de coupes, il est très difficile de savoir, et que sur chacune des coupes, il y a des millions de pixels, il est très difficile de savoir où se trouve l'anomalie. Et plus on enrichit l'information, plus ça va devenir difficile. C'est justement pour ça que l'approche fonctionnelle, qui, elle, vous oriente vers les zones qui métaboliquement sont anormales, va prendre tout son importance. Et je vais essayer de l'illustrer dans la suite de mon propos. Alors, un tout petit peu d'histoire, c'est pour montrer visuellement, parce que ça se voit tout de suite, comment l'histoire s'est accélérée. Ça, c'est la première machine qui a fait de la TEP clinique en France. Il existait de la TEP en France depuis plusieurs décennies, en particulier à Orsay, où on faisait de la recherche fondamentale, de la recherche cognitive. Mais lorsqu'il s'est agi de transférer la technique TEP, donc qui est une technique fonctionnelle, de la transférer dans les hôpitaux pour réaliser du diagnostic médical, Les choses étaient plus compliquées et on a fait un premier essai à Thenon en transformant une machine qui faisait jusque-là de la scintigraphie. La scintigraphie est une méthode plus ancienne, par exemple, pour rechercher les métastases du squelette ou rechercher dans la thyroïde les zones hyperactives. C'était des choses qui existaient depuis plusieurs décennies. Eh bien, on a transformé donc une machine qui faisait de la scintigraphie pour pouvoir voir aussi le glucose. Le glucose, c'est le sucre naturel et c'est l'aliment préféré des cancers. Donc là où on mange beaucoup de glucose, eh bien, il y a la suspicion que les cellules soient cancéreuses. Alors, on a donc réalisé ça à Thenon et pendant 2 ans, cette machine, qui peut paraître le top, mais enfin, quand on a l'œil du médecin imagier, on voit qu'elle est un petit peu presque antique. Eh bien, cette machine a fonctionné, a permis des diagnostics, et je vais vous montrer quelques images. Voilà les images typiques qu'on obtenait. Alors, vous voyez que par rapport à une image, comme je vous ai montré tout à l'heure, en IRM du foie, ou les images du scanner, c'était un peu déroutant. Ici, on a, en vue de face, elle ne veut pas arriver, c'est là. On a le poumon. Hein. Alors, on a des coupes. Ça, c'est la coupe sagittale, comme une pointe qu'on dirigerait ici, et ça, c'est la coupe transverse. C'est-à-dire que ça, c'est la même anomalie. On a du poumon. Qu'est-ce qu'on recherche ? Eh bien, on a du sable. Le sable, c'est là où le glucose se consomme de façon moyenne. Ce qu'on recherche, ce sont des zones où, anormalement, trop de glucose est consommé. Alors, vous voyez que c'est donc les cailloux qu'on recherchait dans le sable. Et dans l'exemple que j'ai choisi, il s'agissait d'une patiente qui était âgée et pour laquelle le chirurgien était réticent à intervenir. Sur une tumeur de cette taille, normalement, on réalise de la chirurgie, et puis après, c'est l'anatomopathologiste qui dit, eh bien, tout va bien, c'est une tumeur bénigne, ou c'est un cancer, il va falloir procéder à des compléments de traitement. Là, cette patiente avait eu 9 fois déjà des biopsies, c'est-à-dire qu'on avait pris des aiguilles, c'est là, voilà, et qu'on avait tapé dans la tumeur en essayant de voir si elle était maligne ou non. 9 fois déjà, les biopsies étaient revenues négatives. Comme ça étonnait quand même un peu les cliniciens qu'une aussi grosse tumeur soit négative, ils nous l'ont envoyée et ça a été la deuxième des patientes qu'on a réalisée avec cette machine un peu bricolée. Et vous voyez qu'on comprend que tout autour de la tumeur, il y a une coque qui consomme beaucoup de glucose. C'est là que risque fort de se trouver le cancer. Et en fonction de notre résultat, ils auraient pu faire une 10e biopsie guidée par cet examen. Ils ont préféré intervenir et ils ont confirmé que la patiente avait une tumeur cancéreuse. Donc, l'intérêt de l'approche fonctionnelle qui permet de localiser les zones qui sont à risque où il faut mettre en évidence un cancer potentiel. Ensuite, donc, on a une machine plus élaborée qui a duré pendant 1 an. Ensuite, on a de plus en plus fort. On a une machine qui a eu 3 détecteurs, donc ça allait encore plus vite. On l'a gardée, celle-là. Et après, on a une machine qui n'était dédiée qu'à cet examen. Donc, c'est pour vous montrer l'accélération de ces techniques. Évidemment, chacune de ces machines a un coût et en les remplaçant, on améliorait les performances, mais aussi, il fallait démontrer aux cliniciens que ça avait un intérêt. Il est clair que les budgets des hôpitaux étant réduits, il convenait que les cliniciens sentent à quel point cet examen leur apportait quelque chose. Et s'ils nous ont progressivement équipés de mieux en mieux, c'est bien parce que cette technique avait fait la preuve de son intérêt diagnostique. Alors, voilà maintenant ce qu'on obtient avec ce type de machine. Vous voyez que c'est déjà beaucoup plus fin. Hein. Alors, là, maintenant, on a des images qui sont de face. On reconnaît ici le cerveau. Le cerveau nous pose un problème parce qu'il ne se nourrit que de sucre. Donc, on a du mal à mettre en évidence des cancers du cerveau parce que c'est une forte consommation de sucre sur un fond qui consomme déjà beaucoup de sucre. Et puis, on a aussi la vessie parce que notre sucre est un faux sucre et le rein reconnaît que ce n'est pas du vrai, donc il l'élimine. Comme vous le savez, normalement, il n'y a pas de sucre dans les urines. Et puis, on a les poumons, on a le médiastin, on a le foie, par exemple, etc. Des structures anatomiques qu'on reconnaît déjà un petit peu mieux. Et puis, on est arrivé, en très peu de temps, à ce type de machine. Alors là, on voit effectivement que ce sont des machines du 21e siècle. Et ces machines associent en fait 2 machines. Cette machine-là, c'est un scanner, une TDM. Et puis, juste derrière, vous avez la machine TEP, qui est analogue à celle que nous avions eue dans la version précédente. Et le patient, donc, est installé sur cette table, et la table entre petit à petit dans chacune de ces 2 machines. L'examen sur le scanner se fait très rapidement parce que le débit est rapide. Donc, en 1 minute, le patient passe dans le scanner. Mais, comme on l'a vu, si cette image est précise d'un point de vue anatomique, elle manque de finesse du point de vue fonctionnel. Il est très difficile de dire au premier regard, sauf pour les tumeurs très importantes, ça c'est une tumeur, et a fortiori, ça c'est une tumeur maligne. Par contre, derrière, ici, il y a la machine TEP qui, elle, caractérise la consommation du glucose. Donc ça, c'est cette machine qu'on a encore pour le moment, mais on envisage de la changer bientôt contre une autre plus performante. Alors c'est la même vue de dessus. Et voilà maintenant le type d'image qu'on obtient. Alors vous voyez qu'il y a du chemin parcouru quand même par rapport à l'image initiale hein, de mes petits cailloux. Donc on a en gris, en grisé, on a le squelette. Et puis dessus, on a, en jaune, la consommation du glucose. Alors on retrouve le cerveau, on retrouve le cœur, mais on retrouve aussi diverses structures anatomiques. Et l'avantage, évidemment, c'est lorsque, je vais vous montrer plein d'images, lorsque on aura une anomalie, on saura l'attribuer soit au foie, soit aux ganglions qui sont à côté du foie. Et ça n'a pas les mêmes conséquences, et ça n'a pas la même intervention. Il ne faut pas réaliser la même intervention dans les deux cas. Donc il est certain que maintenant, on a associé l'approche anatomique avec la TDM et l'approche fonctionnelle avec la TEP. Et ça, c'est la machine à l'heure actuelle la plus performante pour les diagnostics de cancer dans les indications dont je vous avais parlé. Donc, ce que je voudrais illustrer, c'est les grandes évolutions. Et comme je vous l'ai déjà dit, l'évolution est en fait très parallèle dans toutes les modalités d'imagerie, car elles sont favorisées par un facteur commun, les avancées de la thérapeutique en cancérologie. Et comme je l'ai dit, ça n'a d'intérêt de faire de l'imagerie que lorsqu'on a des possibilités thérapeutiques derrière, et en particulier lorsqu'on a plusieurs possibilités thérapeutiques pour choisir entre elles. Alors, donc, l'approche fonctionnelle, ben ça j'en ai un petit peu parlé, hein, et donc je l'ai illustré. Et l'approche fonctionnelle, donc, caractérise depuis toujours la TEP, et c'est pour ça que je vais surtout vous parler de la TEP. Ça, pour ceux qui connaissent un peu la biochimie, c'est la molécule de glucose qu'on a modifiée en rajoutant un corps radioactif. Et donc, c'est elle qui nous guide, qui entraîne le corps radioactif vers les zones qui fonctionnent trop pour le métabolisme du glucose. Alors ça, c'est une explication biochimique un peu compliquée. L'idée, c'est de montrer que le système n'étant pas du vrai glucose, il s'accumule dans les cellules malignes. Il est dans ce qu'on appelle une impasse métabolique. Donc c'est bon signe, hein. Plus la cellule incorpore notre faux glucose, plus elle se charge en radioactivité. Et comme la radioactivité ne peut pas en sortir, au bout d'une heure, on a un contraste entre les tissus a priori sains, sauf le cerveau dont j'ai déjà parlé, et le rein et la vessie, et les tissus cancéreux qu'on caractérise par leur forte consommation de glucose. Alors, je vais vous donner quelques exemples cliniques. Si je suis trop long, il ne faudra pas, bien sûr, vous ne manquerez pas de me couper, parce qu'une fois que je suis lancé dans mon sujet, je suis très passionné. Alors, ça, c'est un exemple de cancer du poumon. Voilà, ça, c'est un cancer du poumon. On le caractérise nettement. Il est aussi actif que la vessie ou que le rein, vous voyez. Et à côté, on a déjà un ganglion satellite, ce qui nous permet de classer, selon notre jargon, T2N1. Mais le point important, c'est que ici, de façon complètement à l'opposé, dans le creux axillaire, c'est-à-dire le creux de l'aisselle, on a aussi une anomalie. Et il est clair que si cette anomalie est un cancer, ça ne sert à rien de faire subir à ce patient une intervention mutilante sur son poumon droit, alors même qu'il y a déjà une extension de son cancer à gauche qui va se compléter. Il faut le traiter par un traitement général ou par de la radiothérapie. Et ça, cette anomalie-là n'avait pas été décelée par les scanners parce qu'il ne l'attendait pas là, parce qu'elle était trop petite. Et donc, on a fait une biopsie au niveau de cette anomalie et malheureusement, c'était une métastase ganglionnaire axillaire. Donc, on a changé le traitement, on a fait, au lieu de la chirurgie qui était prévue, on a fait de la chimiothérapie, c'est-à-dire un traitement général qui traite à la fois la tumeur, son ganglion métastatique et la métastase controlatérale. Voici donc un exemple de modification d'attitude thérapeutique entraînée par cette nouvelle forme d'imagerie. Alors, le point aussi, donc là vous avez vu la TEP toute seule, parfois ça marche, mais c'est vrai que je vous ai dit que c'était une métastase dans un ganglion, ça aurait pu être une métastase dans une côte. Ça aurait pu être une métastase dans le tissu sous-cutané, ça aurait pu être une métastase de la plèvre. On n'avait pas, sur l'image que je vous ai montrée, une finesse anatomique très grande qui permet de guider facilement le chirurgien ou de guider le geste biopsique. C'est donc l'intérêt de la fusion des deux approches dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire la TEP plus la TDM. Donc je l'illustre maintenant. Voici un autre exemple. Pour ceux qui lisent des scanners, ici on a une anomalie. Hein, au lieu d'avoir le poumon tout noir, on a déjà quelque chose de blanc, quelque chose qui est collabé, donc c'est une tumeur du poumon. Mais de l'autre côté aussi, il y a une tumeur du poumon. Comme on ne peut pas retirer les deux poumons du patient, s'il s'avère que ces deux tumeurs sont des cancers, on passera à la chimiothérapie. Or, on fait une TEP et seulement l'une des deux tumeurs fixe le FDG et il n'y a pas d'autres signes de métastase. Donc ça favorise l'intervention chirurgicale. Bien entendu, lors de l'intervention, on a vérifié aussi l'état de l'anomalie controlatérale. Effectivement, c'était une tumeur bénigne. Seule la masse de droite correspondait à un cancer. Donc vous voyez qu'on peut aussi apporter de bonnes nouvelles et on peut favoriser l'intervention chirurgicale là où, de façon standard, sur l'imagerie conventionnelle, sur la TDM, on aurait pensé à passer directement à la chimiothérapie. Voilà. Donc, l'évolution de l'imagerie, c'est aussi un rapport coût-efficacité. Les machines et les agents diagnostiques sont de plus en plus chers et vont s'adresser à des malades de plus en plus nombreux. C'est donc dire l'importance d'études bien construites pour définir des stratégies optimales en fonction des moyens disponibles. La technique la plus pointue et la plus coûteuse n'est pas forcément indiquée en première ligne. Par exemple, on ne va pas faire de la TDM à tous les patients qui toussent un petit peu. Il convient, par des méthodes conventionnelles d'abord, de voir si le risque de cancer mérite qu'on passe à la technique la plus pointue et la plus coûteuse. À l'inverse, et ça c'est un point important, à l'inverse, la technique la plus pointue et la plus coûteuse, il se trouve que c'est la TEP-TDM, ne va pas non plus être reléguée systématiquement en dernière ligne. C'est-à-dire que quand on a tout fait, on ne sait plus quoi faire, allez, on essaye ça. Eh bien non, parce qu'en fait, dans ce cas-là, on ne fait pas d'économie, puisqu'on a déjà déroulé tout l'arsenal complet, et donc l'économie qu'aurait pu permettre en temps et en moyens, qu'aurait pu permettre de réaliser cette technique pointue, cette économie-là est perdue. Donc vous voyez qu'il y a toute une approche de stratégie à définir, qui est complexe, qui est lourde, et qui est en cours de définition, et qui dépend évidemment, là aussi, des approches locales, selon qu'on dispose ou non, facilement ou non, de la dernière année de ces techniques d'imagerie. Voilà, alors donc, d'autres exemples. Ça, c'est pour vous illustrer le fait que, évidemment, quand on a des techniques moins performantes, ça, c'est ce qu'on appelle la scintigraphie du squelette. La scintigraphie du squelette, c'est ce qu'on utilise, en général, pour voir s'il n'y a pas des métastases dans le squelette des patients. Pour ça, on utilise un corps radioactif qui contient du phosphore et qui s'incorpore au squelette. Eh bien, chez ce patient qui a un cancer du poumon, on dirait que non. La seule petite anomalie ici, c'est typique d'arthrose, pour simplifier les choses. Eh bien, lorsqu'on utilise la TEP, malheureusement, vous voyez que dans le squelette de ce patient, on a une grande diffusion métastatique qui n'était pas visible par l'approche conventionnelle. Peut-être ici, mais là encore, ça pouvait être une arthrose de l'articulation. Et donc, vous voyez que l'approche, évidemment, métabolique, plus la finesse d'imagerie de la TEP, plus l'enrichissement par l'apport du sucre, permet des diagnostics plus précis, c'est certain, dans les cas de doute. Alors c'est pour vous montrer que, en plus, ces techniques permettent toutes sortes d'approches compliquées. Là, on voit un patient, donc on est en train de tourner autour du patient, ce qui revient au même, son image est en train de tourner autour de nous, ce qui permet de voir en continuité, plutôt que sur les coupes, les structures anatomiques. Par exemple, ici, on comprend bien que c'est toute la plèvre, l'enveloppe du poumon qui est envahie, et pas seulement la tumeur du poumon. Enfin, il n'existe pas seulement la tumeur du poumon, elle a envahi toute la plèvre. Eh bien, ça, on ne l'avait pas vu par les imageries conventionnelles, parce que l'invasion de la plèvre, qui n'est qu'une simple surface, réalise une image qui est anatomiquement normale. Il faut une invasion massive pour qu'on la voie par les techniques d'imagerie conventionnelle. Voilà. Donc, ceci pour vous illustrer le fait que, grâce à une approche tridimensionnelle, on perçoit bien, mieux que sur les coupes, l'étendue réelle des lésions. D'autres exemples, ça c'est une atteinte des glandes surrénales. Le radiologue n'avait pas su diagnostiquer cette atteinte des glandes surrénales. Évidemment, avec la TEP, c'est beaucoup plus facile. Les reins sont en dessous, on les voit bien. Ça c'est les glandes surrénales, une métastase fréquente au niveau du cancer du poumon. Bon. Également, en radiothérapie, il est clair que la technique TEP va apporter beaucoup. J'avance rapidement. Voilà un exemple de ce qu'on faisait autrefois. On avait les repères anatomiques et puis, en jaune, on avait les lésions principales en TEP, ce qui permet de guider le radiothérapeute. Par exemple, ce patient avait été envoyé pour une radiothérapie sur ce cancer du poumon-là. On ne savait pas qu'il y avait cette extension métastatique ici. Et évidemment, il a modifié son traitement radiothérapique. Un autre exemple que j'ai emprunté à l'industrie, en rouge, ce que vous voyez ici, c'est ce qu'avait tracé, ce que prévoyait de traiter le radiothérapeute, en rouge. Le radiothérapeute, il se basait au départ uniquement sur l'anatomie. C'est-à-dire que, en gros, tout ce qui était collabé, tout ce qui n'était plus du poumon qui s'expandait normalement, pour lui, c'était du cancer. Le problème, c'est que si vous avez une tumeur cancéreuse qui obstrue la bronche, en aval, c'est collabé. Est-ce que c'est du cancer? Non. Et si vous levez l'obstacle, c'est du poumon sain. À l'inverse, les cellules cancéreuses peuvent se répandre de façon insidieuse dans le parenchyme pulmonaire en laissant encore l'apparence de contenu aérien. Donc, ceci est illustré ici. Lorsqu'on inclut maintenant la TEP dans le bilan de radiothérapie, on irradie selon le processus marqué en jaune. Vous voyez à quel point c'est différent. Vous voyez à quel point on modifie l'irradiation. Il y a, chez plus du tiers des patients, une modification de l'irradiation. Et surtout, un deuxième point très important, c'est qu'on arrive à mettre d'accord les radiothérapeutes. Parce qu'avant, la définition du champ de radiothérapie, c'était un peu de l'art. Deux radiothérapeutes ne définissaient pas le même champ. Si on introduit la TEP eh bien, on améliore considérablement la reproductibilité d'un radiothérapeute à l'autre. Et alors ça, c'est l'un des points faibles. Eh bien, c'est le fait que la tuberculose ou des maladies infectieuses peuvent aussi, normalement ça devrait tourner, peuvent aussi entraîner des foyers qui fixent trop le glucose. Donc en imagerie, rien n'est jamais parfait. Hein. C'est-à-dire que, dans certains cas, on a la bonne surprise de voir qu'un foyer comme celui-ci, qui fixe à l'évidence trop le glucose, n'est pas un cancer du poumon, est une pathologie tuberculeuse. Comment est-ce qu'on a pu s'en douter chez ce patient? Parce que c'était bilatéral, pour des raisons un petit peu compliquées. Donc, l'imagerie, à l'heure actuelle, ce n'est pas de l'histologie. Ça, c'est certain. Ça guide l'histologie, ça guide les endroits où il faut rechercher, mais ça n'affirme pas à 100%. Aucune méthode n'affirme à 100%. Voilà. Dans le cancer du sein, alors j'avais quelques images un peu anciennes, je vais avancer. Ceci peut-être pour vous montrer, c'était deux cancers du sein qui faisaient la même taille, 3 cm. Ici, pour un œil exercé, on ne voit rien. Ça, c'est la mammographie qui, elle, voit clairement. Hein. On ne voit rien en métabolisme. Pourquoi? Parce que c'est une tumeur de grade 1, une tumeur peu agressive. Avec la même taille, une tumeur de grade 3, c'est-à-dire une tumeur agressive, donne une fixation très importante. Ici, c'est le cœur, c'est normal. Ça, c'est le cancer du sein. Voilà. Donc, l'imagerie, c'était ce point que je voulais introduire. Cette imagerie métabolique vous caractérise le tissu cancéreux aussi par son agressivité. Les cancers plus agressifs fixent plus le glucose. Et ça, c'est important parce que cette méthode d'imagerie va aboutir à une individualisation de la thérapeutique. On va passer de protocolisation, si j'ose dire, de la cancérologie, c'est-à-dire où tout le monde suivait à peu près les mêmes protocoles, à une individualisation, une thérapeutique qui sera adaptée à un patient donné, et l'imagerie va jouer un grand rôle, en particulier l'imagerie fonctionnelle, va jouer un grand rôle dans ce cas. Par exemple, et je vais vous le montrer, actuellement la chimiothérapie peut être adaptée au bout de 2 cycles si elle est inefficace. Alors même qu'avant, il fallait le faire au bout de 7 ou 8 cycles si vraiment radiologiquement la tumeur ne fondait pas. Là, si la chimiothérapie marche, la tumeur, au bout de 2 cycles, elle ne peut plus fixer le glucose, elle est atteinte. A l'inverse, si elle est inefficace, la tumeur, on voit bien qu'elle, ça lui est équilatérale, et du coup, il faut changer la chimiothérapie ou passer à autre chose, la radiothérapie. Donc vous voyez qu'on va réaliser des économies importantes, puisqu'une chimiothérapie qu'on poursuit pendant 7 cycles alors qu'elle est inefficace, elle est toxique pour le patient, et elle coûte très cher de façon inutile. De la même façon, il est probable qu'à l'avenir, on va mettre sur le marché des couples médicaments diagnostiques, médicaments thérapeutiques, avec l'idée très simple que si une tumeur n'accumule pas le médicament qu'on se propose de donner au patient, eh bien, à l'évidence, elle ne répondra pas à son effet thérapeutique. Donc l'idée, ça serait d'avoir un nouveau médicament, ils vont forcément être très chers les nouveaux médicaments, parce que le développement coûte très cher, d'avoir les nouveaux médicaments rendus radioactifs et de bien vérifier que les cibles, la tumeur, le cancer, accumule effectivement ce médicament-là. S'il ne l'accumule pas, il faut passer à un autre, et ça évite d'avoir à faire un traitement long et coûteux qui, de toute façon, n'aura abouti à rien. Donc, voilà des exemples. Hein. Un exemple, c'est un cancer du sein. Vous voyez que malheureusement, chez cette patiente, même si vous n'êtes pas des grands spécialistes, je suis sûr que maintenant, vous avez repéré le foie et que vous avez repéré que toutes ces taches noires dans le foie correspondent à des zones qui ont fixé trop le glucose, donc des métastases hépatiques. Eh bien, après chimiothérapie, la patiente est entièrement détergée. Ça, c'est le rein, et c'est normal, hein, vous les avez déjà ici. Donc, vous voyez comment, après très peu de cycles de chimiothérapie, on peut affirmer qu'il y a un espoir de réponse complète chez ces patientes, et vous savez qu'on peut guérir d'un cancer du sein, y compris métastatique. En tout cas, on peut avoir une rémission très prolongée. Dans le cancer du côlon, je ne vais pas faire tous les cancers, hein, j'ai fait les plus fréquents uniquement. Alors, dans le cancer du côlon, eh bien, il y avait, comme vous le savez aussi, une tendance à faire des examens systématiques, c'est-à-dire qu'à 3 mois, on faisait telle chose, à 6 mois, on faisait telle chose. Eh bien, peut-être qu'on va aussi évoluer, parce que faire un examen systématique chez quelqu'un qui n'est pas atteint, c'est l'inquiéter inutilement, parce qu'évidemment, dans l'attente du résultat de l'examen, il a un stress incomparable, et puis aussi, c'est mobiliser des machines, mobiliser des moyens inutilement. Eh bien, il est très probable qu'avec ce qu'on appelle les biomarqueurs, les marqueurs biologiques, dont l'un des plus simples est l'antigène carcino-embryonnaire qu'on peut doser dans le cancer du côlon, eh bien, avec eux, on adaptera l'imagerie aux patients qu'on sait être à risque réel de récidive et qu'on évitera de faire des examens à l'aveugle. Des exemples que je voudrais vous montrer. Voilà un exemple, par exemple, un patient qui avait une augmentation de son marqueur du cancer du côlon, qu'on appelle l'antigène carcino-embryonnaire. On se proposait de lui faire de la chimiothérapie parce qu'on ne savait pas à quoi c'était dû, on ne savait pas où était la récidive. Et quand on ne sait pas où, ben on doit faire un traitement du corps entier. C'est bien logique. Hein, on ne peut pas faire de chirurgie, on ne peut pas faire de radiothérapie. Eh bien, l'ATEP a montré qu'il y avait un foyer unique dans le foie. Et il faut savoir qu'il a bien été montré que le fait de réséquer, de retirer chirurgicalement un foyer unique du foie dans un cancer du côlon, allongeait considérablement l'espérance de survie. Donc, c'est pas de faire de la chirurgie de façon inutile, c'est de la chirurgie dont il est démontré qu'elle est utile. Et donc, ce patient a eu une intervention chirurgicale qui lui a redonné une espérance de survie considérablement supérieure à ce qu'aurait été la chimiothérapie faite à l'aveugle. Voilà d'autres exemples. Voilà des exemples d'une métastase qui n'avait pas été retrouvée. Et pourquoi ? Parce qu'elle n'était absolument pas là où on l'attendait, elle était dans l'aine. Il est très rare que les cancers du côlon métastasent à l'aine. Monsieur Israël vous le confirmera. Et d'ailleurs, les cliniciens ne voulaient pas nous croire. Quand on leur a dit « c'est là », ils ont dit « vous plaisantez ». Et ils ont fait des biopsies, d'abord, hein. Ils ont confirmé. Ce n'était pas, par exemple, une tuberculose. C'était bel et bien un cancer. Et surtout, quand ils ont retiré ces deux ganglions, eh bien, le marqueur tumoral, l'antigène carcinogène embryonnaire, il est redevenu normal. D'autres exemples, je pense que je vous prends un petit peu trop de temps, donc je vais avancer à toute allure. Hein. Voilà un patient, ça c'est une chance, on soupçonnait une récidive de son anastomose entre le côlon et le rectum. Ça se fait forcément à gauche, ça. Hop là. Ça se fait forcément à gauche. Et nous, on a vu quelque chose à droite. Alors qu'est-ce qu'il a fait le chirurgien ? Il a commencé quand même par vérifier à gauche que sur l'anastomose, il n'y avait rien, et il n'y avait rien, et il s'est porté à droite. Pourquoi est-ce qu'il s'est porté à droite ? Uniquement parce que notre examen le lui disait. Et là, il a découvert un abcès. Alors ça, c'est un abcès. Bon, tant mieux, c'est la bonne surprise pour le patient. Hein. C'est aussi pour vous illustrer une fois de plus hein, que nous ne faisons pas de l'histologie. Nous avons montré quelque chose qui était anormal. Nous ne pouvons pas affirmer que c'était une récidive cancéreuse. Ça a été une bonne surprise. Mais, à la limite, le patient a été aussi traité de son abcès. Voilà, d'autres exemples. Ici, un exemple de chimiothérapie inefficace. Vous voyez qu'après plusieurs cycles de chimiothérapie, eh bien, ce patient a encore des foyers visibles dans le foie. Hein, c'est assez facile, même pour un profane, de s'en rendre compte. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont changé la chimiothérapie, au bout de 3 cycles. Un autre exemple, même problème. Hein. Il y a encore une augmentation de la CE après la chimiothérapie, ça c'est le rein. Est-ce que la chimiothérapie de ces métastases du cancer du foie a réussi ? Réponse, oui. Est-ce que tout va bien pour le patient ? Réponse, non. Et ça, ils ne le savaient pas, parce qu'on a diagnostiqué une récidive ailleurs, au niveau de la région pelvienne. Et donc, le chirurgien s'est porté sur la région pelvienne, et ils ont fait de la radiothérapie associée à une chimiothérapie. Bref, on a changé l'attitude thérapeutique. Voilà tout ce que je voulais vous illustrer. Voilà un autre exemple. En IRM, ça c'est une TDM, mais enfin en IRM, on a ici la suspicion de 1, 2, probablement 3 métastases dans le foie. 3 métastases dans le foie, surtout quand il y a le foie droit et le foie gauche, ça n'est pas résécable. C'est la chimiothérapie. On fait une TEP, qu'est-ce qu'on obtient ? Une seule métastase, et encore elle ne fixe pas beaucoup, ce qui prouve qu'elle n'est pas bien agressive. Donc le chirurgien y est allé. Et ça, c'était une seule métastase. Ça, c'était des tumeurs qui correspondaient à des tumeurs pleines de sang, des angiomes, qui n'avaient aucun caractère de malignité. C'est pour vous montrer à quel point les méthodes sont complémentaires et vous montrer à quel point aller chercher la plus pointue peut quand même être utile pour la prise en charge du patient. Un autre exemple, ici, après chirurgie, ça arrive très souvent, on a une masse. Qui peut savoir si, au sein de cette masse, il y a encore des cellules cancéreuses ? Pas l'imagerie conventionnelle, pas l'imagerie anatomique, on a une masse. Est-ce qu'on va réintervenir, disséquer à nouveau cette masse, avoir de nouveau des cicatrices qui donneront une autre masse ? La réponse est non, on la caractérise par la TEP. Et là, malheureusement, dans ce cas-ci, la TEP vous dit qu'au sein de cette masse, ça c'est la vessie, mais au sein de la masse, il reste du cancer. Et vous voyez que si on avait fait une biopsie et qu'on était parti au centre de la masse, ben, il y avait de fortes chances qu'on pense que cette masse était purement cicatricielle. Alors, un autre exemple, très brièvement, un peu dans le même style. Ça, c'était un patient qui était venu pour des anomalies de la plèvre, et tout le monde avait complètement oublié qu'il avait des antécédents de cancer du côlon. Eh bien, on a effectivement des anomalies au niveau de la plèvre, mais on a pu aussi, et ils ont vérifié, s'apercevoir qu'il y avait une récidive de son cancer du rectum qui était complètement passée inaperçue. Un train peut en cacher un autre, et l'avantage de notre approche, c'est qu'elle est au niveau du corps entier. Ça, c'est le même patient. D'autres exemples, j'avance un petit peu. Alors, l'évolution donc, de l'imagerie en cancérologie, je reprends toujours un petit peu ma trame, hein, c'est donc d'utiliser l'imagerie pour évaluer dans leur développement de nouveaux médicaments. Vous savez que, et ça pour le public, c'est effectivement assez stressant et assez frustrant, on voit arriver à la une des journaux, tel nouveau médicament a été démontré comme étant efficace, vous l'aurez bientôt sur le marché. Et c'est pas vrai. Parce que les études, à l'heure actuelle, nécessaires pour mettre un médicament sur le marché, c'est au minimum 5 ans, parfois 10. Eh bien, l'imagerie pourrait permettre de raccourcir de façon drastique ce temps si on peut démontrer que ce médicament n'influe pas directement sur la survie du patient, mais négative les images. Si vous avez démontré par ailleurs que ces images étaient corrélées à la survie du patient, bah vous avez un raisonnement simple. C'est que vous avez ce qu'on appelle, en anglais, je ne trouve pas le bon terme, « a surrogate », c'est-à-dire un moyen de démontrer l'efficacité de votre médicament sur une image, quelque chose qui s'obtient en quelques semaines. Donc, vous pouvez réaliser des études de médicaments conventionnels très vite, pour pas très cher, et si ça ne marche pas, ça vous le dit aussi très vite, sans attendre le décès des patients, qui est quasiment, heureusement, difficile à obtenir dans certaines pathologies cancéreuses, comme le cancer de la prostate. Voilà. Alors, un exemple de ça, c'est ce qu'on appelle les gystes. Les gystes sont des tumeurs tout à fait spéciales, les tumeurs stromales. Jusque-là, il n'y avait pas de traitement actif, et puis on en a trouvé un, qui est le Glivec, qui n'agit pas en tuant les cellules, mais qui agit en les privant d'un récepteur qui faisait augmenter de taille la tumeur. Donc on prive ce récepteur, la tumeur n'augmente plus de taille, elle devient instable, et privée de son facteur de croissance, elle disparaît. Voici un exemple de réponse à cette tumeur au Glivec. Voilà, ici vous aviez la tumeur rectale, et 24 heures après, il n'y a plus rien, elle a perdu sa faculté de se multiplier. Eh bien, si 24 heures après, elle est toujours aussi active, ça ne sert à rien de dépenser des fortunes en Glivec, à la fin, le patient récidivera. Alors, celle-là, c'est le lymphome. Hein. Voilà un exemple, parce qu'on traite aussi les enfants. Hein. Et la TEP, c'est une approche très importante pour le traitement des enfants, parce que ça n'est pas invasif. Voilà un exemple d'un enfant pour lequel on se posait la question de savoir s'il y avait ou non des métastases, des lésions osseuses, c'est pas vraiment des métastases, des lésions osseuses dans son lymphome. C'est dans la pathologie des ganglions lymphatiques. Alors, je vais aller très très vite. Donc, l'idée, c'était de vous montrer comment, chez un enfant, on pouvait, avec notre examen, éviter de lui faire des biopsies qui sont très douloureuses dans les crêtes iliaques en démontrant qu'il avait effectivement une atteinte étendue du squelette. Le résultat, c'est qu'ils ont tout de suite modifié le traitement. Ils sont passés tout de suite à ce qu'on appelle l'intensification chez cet enfant. Ils n'ont pas utilisé le traitement standard, qui est le CHOP, enfin bref, passons. Et donc, ils ont tout de suite intensifié le traitement et le résultat, il est là. Le résultat, il est que 2 mois après, cet enfant n'a plus de lymphome actif. Et on peut guérir du lymphome. Voilà, je vais passer tout le reste de mon exposé. Sauf s'il ne veut pas se laisser passer. Voilà, je suis désolé. Bon. Alors, ceci, c'était pour vous montrer que la TEP, c'est une méthode d'imagerie. Plusieurs approches sont possibles. Par exemple, ici, en TEP, chez le même patient atteint d'un cancer du pancréas qui a malheureusement des tas de métastases, eh bien, on peut offrir aussi des super scintigraphies du squelette. C'est la même chose que je vous ai montré d'ailleurs, mais c'est plus beau. Et on voit que l'une de ces métastases est dans le squelette. Évidemment, cette approche-là est beaucoup plus importante pour traiter le patient. Et puis, il y a d'autres traceurs qu'on peut utiliser, comme par exemple la DOPA. J'avance un petit peu. Et puis, je vais me faire plaisir, si vous me permettez. Je sais bien que c'est pas le lieu, mais je vais avoir la honte de ça. Et je vais vous montrer le fait que notre équipe a décrit aussi la possibilité de mettre en évidence, grâce à la TEP, avec une autre molécule, la possibilité de mettre en évidence des cancers du foie, qui sont très difficiles à mettre en évidence autrement. Voilà un exemple de cancer du foie. En voilà un beaucoup plus petit, avec une taille de 9 mm. Et vous le voyez clairement, hein, c'est la tâche, on ne peut pas le rater. Hein. Et pour finir, vous voyez ce cancer du foie-ci qui était visible clairement avec ce nouveau traceur qu'on appelle la colline, qui ne l'est pas avec le sucre radioactif, parce que ce type de cancer du foie sont des cancers calmes. Voilà, je vous remercie. La scintigraphie du squelette ne montra rien du tout, alors qu'en plus, ici, la nouvelle approche montait des métastases au niveau du squelette. Voilà, en conclusion, il convient d'insister d'une part sur le caractère complémentaire entre elles de ces modalités d'imagerie en cancérologie et sur l'interaction à double sens entre les avancées thérapeutiques dont on va vous parler et les avancées de l'imagerie. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre Jean-Noël Talbot, professeur de médecine, faisant une communication devant l'Académie des sciences morales et politiques le 12 mars 2007. Cette séance était intitulée « Où en est l'imagerie médicale en cancérologie ?». Vous pouvez retrouver l'ensemble des séances de l'Académie des sciences morales et politiques dans la médiathèque de Canal Académie.